ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines, ravis d'être avec vous aujourd'hui. Avec une émission magique, il sera question de chat noir, de gris-gris, du chiffre 13, de guérisseurs de marabouts qui promettent de retrouver un travail, l'amour, la virilité, de devenir riche aussi. Sorcellerie ou simple croyance populaire, chacun porte une part de superstition en soi. Pourquoi en 2017 sommes-nous toujours superstitieux ? En Afrique subsaharienne, un sondage Gallup de 2010 a montré que près de la moitié des habitants croient personnellement en la sorcellerie. Alors, de l'homme de la rue jusqu'à l'homme politique, comment ces croyances continuent d'avoir une influence sur notre quotidien. On attend vos nombreux messages au 33 1 84 22 71 71 et sur nos réseaux, racontez-nous quelles sont les superstitions dans votre pays et si vous y croyez, si elles agissent sur votre vie. Pour dialoguer avec nous, nos invités aujourd'hui, je vous les présente. D'abord Marie-Charlotte Delmas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, vous êtes passionnée donc pour toutes ces croyances populaires et vous publiez un dictionnaire, le dictionnaire de la France mystérieuse, c'est aux éditions Omnibus et chacun vient aussi avec son petit gris-gris. Vous avez une bague qui vous protège ?
Oui, j'ai une bague dont j'aime à penser qu'elle me protège.
Voilà. Il y a une pierre, il y a un crapaud aussi.
Alors il y a des pierres, il y a du métal, il y a de l'animal et il y a des pierres, voilà.
Et vous aimez à penser qu'elle vous protège.
Oui, oui, oui.
Il faut y croire pour que ça marche.
Non, j'y crois sans y croire, mais c'est un jeu entre moi et moi. Et finalement, je me sens mieux quand je la porte.
Et vous, Toby Nathan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnopsychiatre.
Oui.
Vous portez quelque chose aussi pour aujourd'hui, pour que cette journée soit placée sous le signe du
bonheur. Je ne vais pas vous dire mes secrets.
Bien sûr.
Vous ne révélerez pas
vos secrets, mais vous nous décrypterez en tout cas toutes ces pensées magiques. Pourquoi et comment elles nous accompagnent donc toujours aujourd'hui. N'attendez pas la fin de l'émission hein, pour nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook, vos messages arrivent déjà nombreux. Le sujet vous parle. Vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Alors, je vais en donner 2-3 pour commencer. Il y a Bourgeois à N'Djamena, donc c'est au Tchad, qui nous dit « Chez moi, on dit que si ta main te démange, tu auras bientôt de l'argent. » C'est un message qui revient souvent. Et je crois qu'en France aussi, on le
oui,
dit.
Oui, bien sûr.
Marie-Charlotte.
Alors, selon les lieux, main gauche, main droite, mais c'est effectivement une superstition qui est très courante en France et depuis assez longtemps. En tout cas, on la retrouve au 19e siècle fréquemment.
Il y a Claude de Yaoundé qui nous dit « Ah, toutes ces superstitions, elles font vraiment partie de nos cultures. » Donc là, on est au Cameroun. Les ancêtres ont observé la nature et nous ont transmis donc, les multiples interprétations. Alors, chez nous, on dit par exemple que lorsque vous voyez une feuille fraîche de banane plantain se casser juste devant vous, eh bien, cela veut dire qu'un de vos proches va mourir. On va continuer avec Ibrahim de Khartoum, donc au Soudan, qui nous dit qu'au Soudan, il n'est pas conseillé de passer au milieu de deux personnes, car ça porte malheur. Alors lui, il ne comprend pas, Ibrahim, mais il dit que c'est un héritage hein, des ancêtres qui est toujours très vivace. Pourtant, Lionel Messi passe tous les jours entre les défenseurs, mais ça ne l'empêche pas d'être le meilleur footballeur du monde. Voilà ce qu'il nous dit. Et pour terminer, je reviendrai après régulièrement avec vos messages. Il y a Guy de Dakar qui nous dit « Attention à ces pratiques, car un marabout vous promet ciel et terre, mais il ne faut pas se faire avoir. Je trouve quand même ridicule de croire qu'un bout de bois, un masque ou un bracelet est un pouvoir qui vous protégera d'un quelconque danger. » Continuez de discuter sur Facebook ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Alors, qui n'a pas ramassé un jour un trèfle à quatre feuilles pour provoquer la chance, essayer de faire un vœu quand on voit passer une étoile filante dans le ciel, ou jouer à la loterie un vendredi 13? On a l'impression que même si on s'y refuse, on joue le jeu, Toby Nathan, de toutes ces croyances populaires.
Il y a deux choses différentes. Hein. C'est-à-dire, il y a ces croyances au sens où on dit c'est dans l'air, quoi, c'est des pensées qui sont dans l'air, et qu'on partage sans savoir, en fait, mais qu'on partage. Et je pense que nous les partageons tous, plus ou moins, un petit peu. Et puis, il y a derrière ça, il y a le fait que, un peu ce que disait votre auditeur sénégalais, il disait derrière ça, une fois qu'on a cru à ça, on va consulter. Et là, on voit des professionnels. Et des professionnels qui sont plus ou moins compétents.
Oui, c'est devenu un vrai, vrai business, ouais. N'hésitons
là,
pas à le dire.
Là, il y a quelque chose d'autre qui entre en jeu. C'est une relation, c'est des solutions qu'on trouve à des problèmes de la vie quotidienne, et c'est des propositions aussi. Et là, on rentre dans les relations interpersonnelles, et au fond, c'est de la psychologie pratique, si vous voulez. Et c'est deux choses différentes. Il y a les croyances d'une part, ce qu'on appelle croyance, ce qui est dans l'air. Et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup à travers les continents.
Oui, hein. Ça a l'air assez universel, là, on le disait, sur la main qui te démange,
ouais,
mais tu auras bientôt de l'argent.
C'est universel parce qu'on communique aussi. Hein. Mm. Ça fait très très longtemps qu'on communique, et ces choses-là, je veux dire, ces croyances, entre guillemets, parce que moi, j'aime pas le mot croyance, hein, peut-être on va en parler
tout
à l'heure.
On aura le temps de l'évoquer, ouais. Tobin. Attends, on va tout de suite prendre Babacar, il a envie de parler depuis Kaolack, il nous appelle donc du Sénégal. Bonjour Babacar.
Oui.
Alors, on vous écoute, vous êtes en direct sur RFI, 7 milliards de voisins, et les superstitions, vous, c'est très ancré, ça tient une place dans votre société, Babacar ?
Oui, bonjour Sandrine. Bon, les superstitions occupent une place de choix dans la croyance populaire ici au Sénégal. D'ailleurs, il y a un célèbre adage qui dit que celui qui ne croit pas au gris-gris sera un jour eu par les gris-gris. Donc, il y a des jours qui sont spécialement choisis pour voyager, des jours pour se raser. Et d'ailleurs, même on dit que le matin, en allant au travail, rencontrer une femme est un bon signe que la journée sera bonne. Et par contre, rencontrer un homme voudrait dire le contraire.
Est-ce que vous croyez à ces croyances, vous, Babacar ?
Oui, des fois, bon, on est obligé avec l'influence qu'on a subie depuis qu'on est gamin. Et je vous dis que des fois, bon... C'est du visuel, parce que il y a des gens qui le mettent en doute et il leur arrive des trucs des fois anormaux. Donc, des fois, on est obligé de faire le jeu et d'y croire.
Ah, il vaut mieux y croire, si je comprends bien, Babacar. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, celui qui ne croit pas au gris-gris sera perdu par les gris-gris. Marie-Charlotte Delmas, qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, on a pas ce type de malédiction, mais on en a plein d'autres malédictions comme ça dans l'histoire. Moi, j'ai travaillé sur la France, hein, exclusivement. Donc, on a en fait des croyances qui sont des croyances collectives, très 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 forte, et moi je les appelle croyances parce qu'il y a une véritable foi. Ces croyances elles forment un noyau à partir de codes qui sont un vrai facteur de cohésion sociale des villages. C'est des croyances autour de la Saint-Jean, croyances profanes. Ce sont des croyances autour de fêtes religieuses récupérées, que ce soit Noël, Pâques, etc. Donc il y a tout un réseau collectif comme ça de croyances très rassurant, très codé, qui peut changer d'une province à l'autre. Voilà. Et puis il y a des superstitions qui peuvent être soit collectives, mais qui sont souvent au niveau d'un village, d'une famille, etc., ou individuelles. C'est la bague.
C'est la bague que vous portez. Alors, c'est vrai que chacun nous a donné quand même un peu ses superstitions dans son pays. Par exemple, effectivement, Siaka à Abidjan nous dit que certaines personnes portent des gris-gris pour se protéger, pour avoir des enfants, pour se porter chance. Mais le pouvoir de ces gris-gris dépend de la croyance qu'on en a. Tout réside là-dedans, Toby Nathan.
Je crois pas, moi. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire... Ce que disait votre auditeur, là, c'est celui qui ne croit pas aux gris-gris sera rattrapé par les gris-gris. Ça signifie que les gris-gris ont une fonction. Cette fonction est...
Et là, vous êtes rattrapé par votre téléphone.
Oui, alors justement, je vais en parler du téléphone. comment ces gris-gris sont une présence, en fait. Hein, c'est, il y a une présence qui est... Vous avez quelque chose qui est auprès de vous, qui est là, auprès de vous. On vous met quelque chose tout près de vous, qui vous garde, qui vous préserve. Alors, si vous acceptez ça, ça va. Mais si vous ne l'acceptez pas, à ce moment-là, vous êtes livré aux forces qui agissent à votre insu. Alors, au fond, croire, c'est-à-dire, pas croire, mais je veux dire, c'est accepter de porter un gris-gris, ça signifie qu'on accepte de se protéger contre ces forces qu'on sait être présentes, puisque tout le monde en a fabriqué. Et vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Alain Épelboin, qui est ethnologue, qui a travaillé à Dakar, précisément, et qui a ramassé les gris-gris dans les poubelles de Dakar. Parce que, vous savez, vous avez un gris-gris. Vous l'avez porté toute votre vie, et puis vous mourrez un jour. Et puis, ce gris-gris reste dans les affaires. Qu'est-ce qui va devenir ? Ben, les gens, ils vont le pousser vers la poubelle, parce qu'on ne peut pas le jeter, on ne peut pas le garder, on ne peut rien en faire. Et donc, finalement, il les a recueillis, et il a vu combien il y en avait. Il y en a à peu près, toute personne à Dakar porte un objet sur lui.
Oui, c'est le témoignage de Guy aussi sur Facebook qui nous dit « Au Sénégal, beaucoup se baladent avec des chaînes ornées de talismans en tout genre autour des reins. »
Autour des reins, oui.
Dès la naissance, effectivement, on le met aux enfants, une manière d'éloigner les mauvais.
Bien sûr, bien sûr, ce sera remplacé après par les médailles religieuses qu'on mettait autour des berceaux, sur les enfants, que les paysans portaient sur leurs vêtements pour éviter tout simplement les démons. Mais la superstition tire sa force du fait qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée. Voilà. Ce manque d'explication, c'est la magie elle-même. Hein, c'est des mois quand j'étais petite dans les écoles religieuses dans lesquelles j'étais, quand je comprenais pas quelque chose, on me disait ah mais ce sont les mystères de la foi. Voilà, facile, mystère de la foi. Et ben là, ce sont les mystères de la vie, parce que finalement cette vision du monde, ce besoin d'être rassuré dans cette vie difficile qui nous mène de la naissance à la mort sans trop savoir pourquoi ni comment, c'est aussi ce qui nous rend humains. Et qui nous rassemble, les 7 milliards de voisins, nous avons tous ça. Si nous avons quelque chose en commun, et ben déjà c'est ça.
Et c'est de donner aussi justement du sens au mystère qui nous entoure. Vous expliquez dans votre livre, Le Dictionnaire de la France mystérieuse, à quoi servent ces croyances populaires ? Justement pour donner du sens.
Ah oui, oui. Ah oui, elles sont effectivement elles sont à la fois protectrices, créatrices de sens, et puis elles permettent aussi de faire partie d'une communauté. Quand on dit que le fait de ne pas respecter un gris-gris va faire qu'on va se faire manger ou je ne sais quoi par les gris-gris, c'est aussi le fait que si on ne respecte pas les règles qui sont celles codées par une communauté, on n'appartient pas réellement à cette communauté.
Toby Nathan ?
Oui, non, je suis globalement d'accord avec ce que dit Madame Delmas, mais néanmoins, ce que je veux souligner, c'est que ça signifie que derrière les apparences de la vie policée, il existe tout un champ de forces agressives où il y a des gens qui veulent faire du mal.
Ah oui, oui.
Donc il y a plein de gens, c'est-à-dire que les gris-gris, c'est une proposition sur la vérité du monde. Derrière les apparences, il y a tout un champ de forces agressives et violentes et dont on peut être l'objet. Et il est bon de se protéger contre ça. Alors, cette idée-là, ils ont raison. Je veux dire, les gens qui portent des gris-gris ont raison. Non pas parce que ça va les protéger nécessairement, mais parce qu'ils prennent conscience de l'existence de ce champ de forces négatives qui existe à l'insu des gens dans la partie cachée de la société.
Alors bah, vous nous expliquerez cette relation au monde d'ordre magique, justement, comment l'homme est un animal superstitieux. On va continuer après Moses Somney qui chante « Incantation ».
Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Tzavayot, Meluchot Haaretz, Kevodo. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Tzavayot, Meluchot Haaretz, Kevodo.
Comment naît la superstition, les voisins, les voisines? Qui a dit un jour, par exemple, que le chat noir porte malheur, Marie-Charlotte Delmas, dans votre dictionnaire de la France mystérieuse chez Omnibus?
Alors, c'est l'une des nombreuses superstitions christianisées. Le chat noir, dans la mesure où le diable est capable de se transformer en différents animaux, il va bien sûr emprunter l'apparence d'animaux noirs, chien noir, chat noir, corbeau. Le chat en plus dans les campagnes, parce qu'il faut quand même resituer ces superstitions à leur source, parce qu'elles se sont transmises, mais on est dans des campagnes. Dans ces campagnes, les paysans vivent évidemment de la terre. Des fois, ce n'est pas facile, mais ils ont face à eux une nature dont ils ne sont pas maîtres, mais avec laquelle ils doivent composer. Donc, les chats à la campagne, ça peut être utile et ça peut, quand ça prolifère aussi, c'était pas le petit animal qu'on mettait dans la maison comme aujourd'hui. Donc, ce qui fait que être un chat plus un chat noir, un chat qui ne sert à rien. Parce que ce n'est pas pareil pour le chien noir. Un chat, ça ne sert à rien. Donc être un chat plus un chat noir, c'est être une forme du diable. Ceci dit, il y a des régions, en Aquitaine par exemple, où le chat noir porte bonheur. C'est le principe de la superstition.
Alors il y a une question aussi de Patrick qui nous appelle de Matatadi de RDC. J'aimerais savoir pourquoi le chiffre 666 est le chiffre du diable, puisque vous parliez du diable.
Ça c'est religieux, c'est l'Apocalypse. Bon voilà, c'est encore une des superstitions religieuses, comme le vendredi 13, qui est une superstition chrétienne.
C'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. Oui, oui. Et il y a le chiffre 666. Et après, on l'a interprété comme étant l'équivalence numérique de Néron, en fait. Hein. Et donc, parce que Néron a persécuté les chrétiens, et donc lui, c'était le diable personnifié, en fait, en quelque sorte. Et il va revenir, c'est ça que dit l'Apocalypse. Oui. Hein.
Alors, on apprend beaucoup de choses dans votre livre assez passionnante. Alors, même si, effectivement, moi, je suis un peu rationnel, issu d'un monde occidental. Oui, vous aussi, on est tous un peu, fabriqués dans ce moule assez rationnel. Mais par exemple, même si on n'y croit pas forcément, on apprend par exemple que quand on met sa main devant la bouche, quand on bâille, eh bien, ça fait référence à des superstitions.
Donc, oui, c'est une superstition qui était déjà présente dans l'Antiquité, présente au Moyen-Âge et qu'on retrouve encore au XIXe siècle. On expliquait aux gens que l'air était peuplé de démons, d'esprits maléfiques, etc. Et donc, quand on bâille, on fait un grand appel d'air et on risque de faire entrer des démons en soi. Donc, on met la main devant la bouche. En revanche, quand on éternue, on expulse ce qui peut être considéré comme du mauvais air, des démons et tout ça. Et pour le coup, on vous dit encore aujourd'hui, à vos souhaits. C'est quoi à vos souhaits? C'est une formule magique.
Alors, Marie-Charlotte Delmas, hein, vous restez avec nous. Vous publiez ce dictionnaire de la France mystérieuse chez Omnibus. Et Toby Nathan, également ethnopsychiatre, vous restez avec nous puisqu'on se retrouve dans 3 minutes après le flash pour continuer d'évoquer les superstitions, les gris-gris et autres croyances populaires. Et nous irons tout de suite à Bamako, après avec Dramane qui nous appelle à propos des croyances qui sont ancrées dans son pays. On attend vos messages sur Facebook. Continuez dans 3 minutes après le flash.
Découvrez une série.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à tous les voisins, les voisines qui nous rejoignent. Aujourd'hui, gris-gris, chat noir, mauvais sort, vendredi 13. Pourquoi sommes-nous superstitieux? Comment les superstitions agissent toujours sur notre quotidien? Vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Racontez-nous les superstitions qui agissent dans votre pays. Si vous avez des gris-gris, si vous les portez, quelle influence ça a sur votre vie quotidienne? Nous sommes avec Marie-Charlotte Delmas, sémiologue. Vous êtes passionnée donc pour ces croyances populaires. Et vous publiez Dictionnaire de la France mystérieuse chez Omnibus. Également avec nous, Toby Nathan, ethnopsychiatre. Alors avant de prendre Dramane, on peut dire que l'homme, c'est dans son essence, c'est un animal superstitieux, Toby Nathan.
Ouais, il y a des gens qui ont dit ça. Vous vous souvenez que Vercors, dans Les animaux dénaturés, il cherche qu'est-ce que c'est qu'un homme. Il cherche, il trouve pas ce qui le distingue des animaux. Il dit il y a une seule chose qui le distingue, c'est les gris-gris. Et c'est déjà dans les animaux dénaturés de Vercors. En fait, cette idée-là est une idée très ancienne, elle est assez juste. Elle est... Ce qui est juste, c'est plutôt le fait que les gris-gris sont très... circulent très facilement entre les cultures. Autant des choses qui sont des poésies, de la littérature, etc., ont du mal à circuler. Les objets, les protections, les prescriptions, les tabous, les interdictions, etc., toutes ces choses-là se traversent les frontières avec une facilité assez extraordinaire.
Alors on va traverser les frontières nous aussi, on va aller à Bamako tout de suite où nous attend Draman. Bonjour Draman.
Bonjour Sandrine.
Merci d'appeler 7 milliards de voisins. On écoute votre témoignage.
Oui, effectivement, ici au Mali, ces croyances sont très très répandues. Par exemple, on dit que quand on a la paupière supérieure droite qui tremble, ça veut dire qu'on va voir quelqu'un qu'on avait perdu de vue depuis longtemps. Et quand c'est la paupière gauche, on dit qu'on va perdre quelqu'un. Et aussi, on dit que, par exemple, quelqu'un qui se lave généralement au crépuscule, à la tombée de la nuit, donc la personne risque d'attraper des maladies démoniaques parce que les démons ont des enfants qui tombent malades parfois. Donc, comme ils n'ont pas le pouvoir de soigner leur bébé, ils profitent de ce moment parce que, généralement, au Mali, il n'y a pas les douches. Donc, on prend l'eau avec un récipient et on se lave, on ramène l'eau dans les toilettes et on se lave avec. Donc, on dit que les démons profitent de ce moment pour venir laver leur bébé malade dans cette eau. Donc si tu laves avec l'eau après, donc tu vas attraper ces maladies-là qui sont généralement difficiles à soigner.
Mmh. Vous en avez une ribambelle comme ça, oui. Encore, vous en avez encore, vraiment.
Oui. Par exemple, quand on veut rentrer dans les toilettes aussi, on dit généralement il faut rentrer avec le pied gauche parce qu'on dit que les démons aiment les endroits sales et humides comme les toilettes. Donc il faut rentrer avec le mal sur le mal. Donc si on rentre avec le pied gauche, donc les démons ne pourront rien te faire.
Et en sortant, piétiner le démon donc avec le pied gauche en entrant dans les toilettes.
Le pied gauche. Oui. Et en sortant, il faut sortir avec le pied droit en laissant le pied gauche à l'intérieur. Et là, tout dernièrement, j'ai parlé avec un vieux guillot. Il m'a donné des explications sur deux superstitions. Il m'a dit, par exemple, on dit de ne pas balayer la nuit. Et ça diminue la chance. Mais il dit qu'en fait, nous, les jeunes d'aujourd'hui, on veut tout savoir. On veut savoir pourquoi c'est interdit. Que c'est juste parce qu'avant, il n'y avait pas la lumière partout comme aujourd'hui. Donc, une femme qui s'amusait à balayer la nuit, elle pouvait balayer des bijoux en or, ses propres bijoux en or ou des trucs à son mari pour aller les jeter. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bon de balayer la nuit, ça diminue la chance. Parce que quelqu'un qui s'amuse à jeter des bijoux tout le temps, forcément, aura des chances en moins.
Ah, je comprends. Donc vous avez cherché une explication à cette croyance qui disait qu'on ne doit pas balayer la nuit. Alors c'est marrant ce que vous dites parce que Brice de Yaoundé, il dit qu'aussi au Cameroun, justement, il y a ça aussi, il est interdit de balayer le sol à la tombée de la nuit. Donc c'est aussi quelque chose, vous dites que c'est universel, ça a traversé les frontières, c'est aussi au Cameroun, donc de ne pas balayer la nuit. Alors vous, l'explication que vous en avez, Draman, c'est pour éviter effectivement de faire disparaître des choses qui seraient tombées au sol et qu'on n'aurait pas vu à l'époque où il n'y avait pas l'électricité. Je ne sais pas s'il y a des explications comme ça pour tout. Merci beaucoup, hein, Draman, pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a des explications rationnelles comme ça derrière les superstitions?
Non, parce que l'explication n'est pas importante. Au contraire, la magie vient du fait que ce n'est pas expliqué. Mais en France, le balayage, par exemple, est tabou à plein de périodes. Quand il y a un mort dans la maison, la veille des grandes fêtes, on ne balaye pas, etc. On ne balaye pas parce que durant cette période, la Toussaint, la mort, les âmes du purgatoire se baladent par terre. Donc si, comme elles viennent la nuit, si on balaye, on peut balayer l'âme du défunt, quand il y a eu un mort dans la maison, ou on peut balayer les âmes du purgatoire. Donc la croyance s'est transformée, s'est adaptée à la nouvelle religion, mais cette croyance-là, elle existe déjà dans l'Antiquité. La gauche, le côté sinistre, gauche, senestre en latin, sinistre. Ça a toujours été un côté dont on se méfiait, avancer du pied gauche, se lever du pied gauche qui porte rarement chance, tendre la main de la main gauche, etc. Donc on retrouve, curieusement, ou pas, je n'en sais rien, on retrouve pratiquement les mêmes choses, les mêmes éléments partout dans le monde.
Alors il y a, on nous appelle aussi de Burundi, il y a Daya Saba qui nous dit par exemple, chez nous, eh bien, au Burundi, il n'y a pas de gris-gris ou de marabout, nous croyons en Dieu et nous prions. Par contre, la sorcellerie existe et les superstitions demeurent en campagne, mais pas en ville. Toby Nathan, vous croyez au témoignage de Daya Saba ?
Non, c'est pas ça, c'est qu'il vit à Bujumbura, j'imagine, et qu'en effet, à Bujumbura, il y a... une sorte d'idéologie dominante qui est on croit en Dieu et donc on touche pas à ces choses-là. Ça veut pas dire que les gens ne touchent pas, hein. Ça veut dire qu'il y a de ces énoncés-là qui sont en général dits dans les églises et dans des églises évangéliques en fait, où on n'arrête pas de répéter la sorcellerie risque de tous nous anéantir, il ne faut pas croire à ces choses-là, etc. Et c'est répété indéfiniment. Ce qui veut pas dire que les gens ne se protègent pas et n'ont pas de pratiques rituelles, mais c'est les énoncés officiels qui sont répétés sans cesse, en effet, au Burundi.
Oui, ça va dans le sens de ce que dit Fructueux, donc de Cotonou. Il dit, par exemple, mon père et le père de mon père ont fait du wodou, maintenant c'est à mon tour, les gris-gris, j'en ai à revendre, et je veux dénoncer l'hypocrisie des gens qui se mettent à diaboliser le wodou alors qu'ils finissent toujours par le pratiquer en cachette.
Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec... Mais ça, c'est Cotonou, hein, c'est le Bénin. C'est la terre du vaudou, hein, c'est de là qu'il vient. Et le vaudou, c'est pas seulement de la superstition, c'est une vraie religion avec un panthéon, avec des rituels qui sont des rituels assez complexes, mais qui comportent des objets. Et ces objets sont des objets assez compliqués, des fétiches, quoi, qui sont fabriqués, et qu'on a des fétiches propres, on a des fétiches de la famille, on les honore, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans la société, c'est-à-dire qu'on va être confronté aux difficultés des gestions politiques, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire la politique de son métier, ou même quand il faut trouver une place de marchand au marché, si vous voulez, la possibilité d'avoir un étal au marché, eh bien, il va falloir qu'on passe par là. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie des difficultés de l'existence passe par le crible de ces protections. C'est pour ça que c'est plus de la technique que de la croyance. C'est ça que je pense. Et si vous voulez comparer ça à quelque chose de moderne, eh bien, on parlait tout à l'heure du téléphone, du portable. Le portable fonctionne exactement comme un gris-gris. Vous l'avez toujours sur vous. Vous le regardez sans cesse. Il vous protège, il vous informe. Mais c'est exactement ça, hein. Et vous l'avez tout contre vous. Et d'ailleurs, ça explique le succès extraordinaire du téléphone portable en Afrique, hein. C'est la plupart des pays d'Afrique n'ont pas connu le téléphone filaire, presque pas, et qui sont passés directement au téléphone portable. Et ils l'ont tous dans la poche, parfois un, parfois deux.
Un lien donc avec le gris-gris, c'est le gris-gris des temps modernes.
Ah, je pense, oui. Je pense, parce qu'il vous protège, il vous surveille, il surveille les autres qui peuvent vous vouloir du mal, il vous informe. C'est tout ce qu'on demande à un gris-gris habituellement. Bon, alors... Le téléphone permet aussi de communiquer, mais enfin, le gris-gris, c'est plus difficile de communiquer.
On ne peut pas communiquer avec les esprits.
On peut communiquer avec les esprits, mais avec les autres humains, avec un gris-gris, c'est difficile, oui.
Alors, ce qui est étrange aussi, c'est que ça balaye effectivement tout le champ de la société, de l'homme de la rue jusqu'à l'homme politique. Moi, j'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps, il y avait même un homme politique en face de moi, pour se protéger, parce qu'il avait plusieurs femmes, pour se protéger des mauvais sorts de ses femmes. Son marabout lui avait, procure-toi une pâte de chèvre qu'il avait entouré de cuir. Et donc, il l'a sorti de son sac. Il le portait toujours sur lui. C'est un homme politique. Donc, ça traverse absolument toutes les couches de la société.
Ah ben, bien entendu. Bien entendu. Mais je me souviens, puisqu'on parlait de Cotonou, je me souviens d'une séance célèbre au Parlement de Cotonou, où à un moment donné, il y a une personne qui a commencé à faire des imprécations. Et à ce moment-là, la majorité des députés ont sorti leur gris-gris de leur poche, ont dit « Ah ben, si tu commences à dire des paroles comme ça, nous, on prend nos protections.
» Et chacun a sorti ses protections. Alors que dans le monde occidental, en France, ça reste encore très vivant, je dirais, plutôt à la campagne, dans le milieu rural.
Quoi ? La sorcellerie ?
Oui, la sorcellerie.
Alors la sorcellerie, elle existe d'abord depuis l'Antiquité, sauf qu'elle a changé de forme en Occident, et en particulier dans les pays chrétiens, parce que la sorcellerie, c'était une forme de magie individuelle qui s'opposait à la magie publique, par exemple chez les Romains ou d'autres peuples latins. Et au Moyen-Âge, ce fut le cas jusqu'au XVe siècle, où là, tout d'un coup, on va associer à la sorcellerie l'image du diable, ce qui n'était pas le cas du tout avant. C'était juste une forme de magie. Et il faut quand même se rappeler qu'à la Renaissance, en Europe, vont être brûlés plusieurs centaines de milliers d'hommes et surtout de femmes, qu'on va accuser, pour des raisons les plus absurdes possibles, d'être sorcières ou sorciers, parce qu'ils vivent à l'écart, parce qu'ils sont bossus, boiteux, borgnes, ceux qu'on accuse d'être dubés, du signe dubé, parce qu'ils sont bergers, qui manient le feu, qui sont forgerons, qu'on les dénonce tout simplement. Voilà. Mais on se rend compte dans les collectages du 19e siècle, dans tous les récits, dans tous les témoignages des paysans, que la sorcellerie a retrouvé son visage d'avant, elle est un petit peu moins, beaucoup moins même lié au diable. C'est une pratique courante, quotidienne. Certains collecteurs disent même qu'il n'y a pas un hameau dans lequel ne se trouve pas quelqu'un dont on dit qu'il est le sorcier, que l'on va craindre surtout parce que à partir du moment où une bête a un comportement bizarre, où on va la trouver dans un endroit inaccoutumé,
c'est que le malin est venu se loger.
Non, c'est une bête lutin. Ah. C'est une bête lutin, c'est un revenant, etc. Mais si les vaches ne produisent pas de lait, si le pré donne une herbe qui n'est pas suffisamment grasse, etc., le sorcier est passé par là, le riboteur est venu traîner un torchon, il a enlevé la rosée des prés, etc. Donc il y a toute une série de rituels et de dates en particulier, le 1er mai, la Noël, la Toussaint, où les sorciers sont très vivaces, on va dire, et dont on s'en méfie, bien sûr.
Alors pourquoi sommes-nous toujours superstitieux en 2017? On écoute Exotic Toy qui chante All Alone et nous partirons tout de suite après en Corée du Sud, pays hautement technologique et hautement superstitieux. Maintenant la Corée du Sud, pays considéré comme le plus connecté au monde, avec une population technophile qui se précipite sur les derniers gadgets électroniques et où sont nés, ne l'oublions pas, des grands géants des nouvelles technologies comme Samsung et LG. Et pourtant, cette ultra-modernité apparente n'empêche pas des superstitions millénaires de rester profondément ancrées. C'est ce que vous nous dites, Frédéric Ojardias. Bonjour.
Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
Et vous êtes notre correspondant à Séoul, Frédéric. Pourriez-vous nous donner des exemples justement de ces superstitions encore très répandues en Corée du Sud ?
Eh bien, la pratique la plus frappante, c'est celle assez courante du changement de prénom. Alors, c'est arrivé à plusieurs personnes de mon entourage, quand leurs affaires vont mal, quand ils ne trouvent pas l'âme sœur ou quand ils sentent que leur vie prend la mauvaise direction, beaucoup de Coréens vont consulter un chaman ou un diseur de bonne aventure et celui-ci va alors leur trouver un nouveau prénom, composé souvent de deux caractères chinois dont la signification sera plus en accord avec les astres. Alors, ce n'est pas du tout un phénomène marginal. Entre 2005 et 2015, 1,5 million de Coréens ont officiellement changé de prénom, Cela représente 3% de la population. Et près de la moitié de ceux qui le font ont entre 20 et 40 ans. Un tiers change de prénom dans l'espoir de trouver un meilleur travail. On voit aussi, par exemple, des joueurs de baseball dont la carrière s'essouffle tenter de se relancer en adoptant un nouveau prénom. Il existe même des notaires ou des avocats spécialisés dans les procédures officielles de demande de changement. Et on peut voir derrière cette superstition la permanence du chamanisme coréen. Un chamanisme plusieurs fois millénaire qui reste encore très vivant, même s'il est caché car il fait un peu honte.
Mais alors justement, comment il s'exprime ce chamanisme au quotidien, ces croyances qui sont très liées à ce chamanisme coréen ?
Par exemple, lors de l'inauguration d'un nouveau building ou du lancement d'un nouveau projet, eh bien, on organise des cérémonies qui sont d'inspiration chamanique. Quand j'ai déménagé dans un nouvel appartement, ma belle famille a disposé des bols d'alcool de riz et de gâteau de riz dans chaque pièce pour apaiser les esprits du lieu, ce qui est aussi une croyance chamanique. Alors même s'ils se font très discrets, il y a beaucoup de chamans en Corée du Sud, ils seraient 300 000 selon les chiffres de leur association. Ils sont appelés mudang en coréen et ils s'adaptent sans problème à la modernité. Beaucoup offrent aujourd'hui des services de consultation sur Internet. On va les voir en cachette pour consulter les esprits et s'attirer leur faveur. Par exemple, quand on fait face à un problème de santé que la médecine ne parvient pas à soigner, j'ai un jour assisté à une longue cérémonie chamanique pendant laquelle le chaman entrait en transe, il marchait sur des couteaux et le tout avait été payé par une entreprise qui désirait se développer. Les chamans ont d'ailleurs fait récemment la une de l'actualité ici. La présidente destituée Park Geun-hye a été accusée d'avoir eu pour conseillère au culte une mudang et un candidat au poste de ministre a été écarté parce qu'il avait participer ouvertement à une cérémonie chamanique.
On voit aussi en Corée d'autres croyances, moins ancestrales et plus pittoresques, mais toutes sont aussi bien ancrées.
Oui, alors ça amuse beaucoup les expatriés, mais beaucoup de Coréens croient dur comme fer que rester dans une pièce fermée avec un ventilateur allumé peut vous mettre en danger de mort. Une croyance qui est si ancrée que tous les ventilateurs vendus en Corée disposent d'un minuteur pour qu'ils s'éteignent automatiquement. Le chiffre 4 porte aussi malheur ici, parce que sa prononciation est identique au mot « mort ». C'est pourquoi de nombreux bâtiments n'ont officiellement pas de quatrième étage. On va directement du troisième au cinquième. Ou alors ce quatrième étage est désigné avec la lettre F comme four en anglais. Alors cette superstition est cependant en train de disparaître. D'autres croyances répandues en Corée concernent les très compétitifs concours d'entrée à l'université. On dit que les lycéens doivent manger des aliments collants, comme des sucreries au caramel par exemple, afin que ce qu'ils ont appris reste bien accroché. Et à l'inverse, il faut absolument éviter avant un examen tout aliment glissant, comme par exemple la soupe d'algues, car cela porterait malheur.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Et côté superstition, il y a Neftali à Port-au-Prince qui nous dit « Les Haïtiens sont tellement superstitieux qu'on pourrait leur consacrer une émission entière. » Alors voilà, ils vont bien après les Coréens du Sud. Effectivement, on a vu à quel point c'est ancré, alors que c'est des sociétés hautement technologiques. Oui, Marie-Charlotte Delmas, ça ne vous étonne pas?
Ah non, pas du tout. Non. Je pense que plus la société... moins il y aura de mystère dans les choses courantes et plus le progrès se développe, plus parallèlement, on le constate au 19e siècle, hein, avec l'arrivée des spirites, des machins, plus il y a ce besoin de voir autre chose. Mais ce que je constate aussi en écoutant là, votre correspondant de Corée, c'est que d'un pays à l'autre, évidemment, les objets vont changer. Le riz absorbe les mauvais esprits. C'est vrai que le riz absorbe aussi l'humidité. En France, par exemple, c'est le sel qu'on va mettre dans les maisons, parce que c'est lui qui absorbe les mauvais esprits dans la maison dans laquelle on va rentrer. Bon, voilà. Mais les principes généraux de la magie, en particulier le principe analogique, hein, tout ce qui colle va faire que ça va rester attaché. Le cadenas qu'on va aller mettre ou qu'on allait mettre sur le pont Saint-André-des-Arts fait appel à un très vieux procédé magique, même si on ne le sait pas, qui est celui des ligatures. C'est-à-dire que tout ce qui attache, lie, et par similitude, va lier aussi des personnes. Comme le caramel va coller voilà. Donc d'accord. Les principes sont les mêmes d'une civilisation à l'autre, à travers le monde et à travers le temps.
Et pourtant, il y a le développement quand même des connaissances aujourd'hui, au niveau mondial. Il y a Iba de Nouakchott qui nous dit « Je pense que ces superstitions marcheront tant que l'ignorance et le manque de confiance demeureront dans nos sociétés. » Donc est-ce qu'effectivement, avec le développement de la connaissance, ça va diminuer, Toby, Nathan ?
Bah, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'on voit en tout cas. Hein. C'est ce qu'on avait prédit au 19e siècle, précisément. On avait dit, plus les gens seront savants, plus ils connaîtront les forces de la nature et moins ils seront superstitieux. En vérité, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en même temps que se développe la connaissance, se développe la communication. Et que, il disait bien, votre correspondant à Séoul, que les chamans consultent sur Internet. Hein. Et en fait, Internet a démultiplié de manière extraordinaire l'audience, en fait, de ces propositions qui sont des propositions qu'on dit superstitieuses, mais je trouve qu'elles sont, quand on réfléchit 5 minutes, lorsque vous allez passer un concours, par exemple, hein, puisqu'on parlait de ces histoires d'examen, vous allez passer un concours, vos chances de réussite sont, disons, de 1% ou 2% ou 5%. Vous savez que ça dépend pas de vous, quoi. C'est-à-dire, même, il y a plein de gens qui seront très bons et qui seront éliminés sur des petits détails. Donc ça dépend d'autre chose. Au fond, faire de la magie, à ce moment-là, c'est plus rationnel que de croire aux statistiques, si vous voulez.
Ah, carrément, vous pensez
mais
que
oui,
c'est
bien
plus
sûr,
rationnel
bien sûr.
Parce qu'en même temps, les sondés, par exemple, de l'enquête Gallup, qui dit que la moitié des habitants d'Afrique subsaharienne croient à la sorcellerie, ils pensent qu'ils ont moins de contrôle sur leur vie. On se sent quand même victime des forces naturelles. On n'est pas... Oui.
Bien sûr, non, mais je veux dire, c'est quand on agit... On agit sur ces forces naturelles. La superstition, c'est pas d'avoir peur, c'est d'être actif. C'est-à-dire de pas subir, d'être actif. Par exemple, quelqu'un qui a eu des tas de déboires dans son existence et qui va consulter, alors, à Séoul, ils disent que c'est un chaman, mais c'est des choses très anciennes, ça existe dans nos traditions, hein, ça existe dans la tradition juive. Par exemple, le changement de prénom dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, le prénom Raphaël, par exemple, en hébreu, ça signifie « Dieu a guéri ». Et on donne très souvent ce nom à quelqu'un qui a été malade et qui a été guéri, justement pour qu'il guérisse. Et on change son nom parce qu'on pense qu'il est malade parce qu'il est attaqué par les esprits et que les esprits se repèrent au nom, en fait. Ils vous coursent à partir de votre nom. Si vous changez de nom, vous les trompez. On ruse avec les esprits. On ne les combat pas, on ruse avec eux.
Oui, donc c'est quand même c'est tout un façonnage de l'esprit. C'est une vision du monde, en fait.
Ben, c'est totalement rationnel. Pourquoi vous dites que c'est irrationnel ? De faire des ruses pour résoudre un problème et d'aller chercher des objets, des outils, c'est un comportement de technicien, c'est pas un comportement de magicien irrationnel, c'est un comportement de technicien.
Ah, pour terminer, j'ai envie de donner le message de Nestor de Douala qui nous dit que les superstitions en Afrique sont l'équivalent pour lui du développement personnel pour les Occidentaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Charlotte Delmas ?
Pas grand-chose, mais pourquoi pas ? Parce que de toute façon, la superstition, la croyance, dont pour moi les religions du monde font partie, subsistera jusqu'à ce qu'on sache pourquoi on est là et ce qui se passe après la mort. Voilà. Tant que ces deux énigmes ne seront pas résolues, des croyances continueront de naître, de renaître, qu'elles soient organisées en religion ou désorganisées de différentes façons. Alors, le développement personnel, oui, parce que on enseigne aux gens à croire dans les choses. Voilà, en disant, et pas seulement le développement personnel, parce que la physique aujourd'hui, quelques physiciens aujourd'hui sont en train d'essayer de montrer qu'effectivement le fait de croire en quelque chose peut le faire arriver. Ça s'appelle la physique de la conscience, et que, voilà, donc je vais pas épiloguer, nous n'avons pas le temps, mais oui, probablement, on est dans le même registre en tout cas.
Et des superstitions, ils s'en créent toujours aujourd'hui ?
Oh ben, il s'en crée toujours. Là, moi, je m'amuse beaucoup de voir les gens se regarder dans les yeux pendant qu'ils trinquent, par exemple. Je ne sais pas d'où ça sort.
Alors, on dit que ça porte malheur si jamais on se regarde pas dans les yeux.
Oui, ben, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dû lancer ça un jour. Et puis, la superstition, comme ça, voilà, on l'a trouvé bien. Et donc, du coup, ça se répand. On ne sait pas. d'où ça sort. Et voilà.
Et c'est ce mystère-là qui vous a fasciné. Hein, et...
Oui, enfin, moi, je ne regarde pas les gens dans les yeux. Hein.
Il faut regarder les gens dans les yeux ou pas?
Je ne sais pas.
Que font les esprits, oui.
Le sens me paraît évident. C'est-à-dire qu'on fait des rituels sur le vin. On le consacre à des divinités. Peut-être que si vous ne vérifiez pas ce que celui avec qui vous avez trinqué a fait avec le vin, peut-être bien qu'il est en train de vous jeter un sort. Donc regardez bien ce qu'il est en train de faire.
Oui, mais elle n'existe pas du tout au 19e
Merci
siècle.
Merci beaucoup, hein, Toby Nathan, donc ethnopsychiatre, pour avoir été avec nous en direct. Et vous, Marie-Charlotte Delmas, vous avez publié un dictionnaire de la France mystérieuse chez Omnibus. Merci à tous les auditeurs, hein, pour votre fidélité. Demain, donnez-nous notre pain quotidien. Mais ce produit simple et naturel est en voie de standardisation. Quel pain pour demain? On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71. Deux fois, à demain. Portez-vous bien.